Bonjour Caroline, je suis ravie de te recevoir pour ce podcast en partenariat avec les Français.presse.
Mais bonjour, bah ça me fait très plaisir. Merci de me recevoir aujourd'hui.
Bah, écoute, c'est avec plaisir.
Ce
Hein,
sont des journées particulières, donc.
voilà. Alors, oui, on va expliquer tout ça. Donc, parce que moi, mon média et la radio, on met en avant donc les expatriés français et leur entreprise donc à l'étranger. Et donc toi, tu es une expatriée qui, alors en ce moment, est au cœur de l'actualité parce que tu vis à New York. Et alors, les élections, voilà, au moment où on enregistre, hein, les élections viennent d'avoir lieu. Pour l'instant, il y a un léger avantage à Biden. Nous, vu d'Europe, ces élections, elles paraissent animées et source de tension. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire, toi, ton point de vue d'expatriée française sur ce climat politique?
Alors, c'est un climat qui s'est déroulé non pas uniquement sur les 2 derniers jours. Il faut déjà voir que c'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre pour les Français ou même les Européens par rapport au système de vote et de dépouillement des bulletins, etc. Ça prend un temps infini. On a l'impression de vivre un jour de vote sans fin. C'est un peu particulier, c'est vrai. Une tension incroyable qui atteint, je ne sais même pas si elle a atteint encore son paroxysme, pour être tout à fait clair. Parce que même si on pressent qu'aujourd'hui Biden pourrait être annoncé comme vainqueur de cette élection, parce qu'il est en train de clairement leader un certain nombre d'États aujourd'hui, notamment Pennsylvanie, Arizona, Nevada, etc. Malgré tout, il va y avoir une suite à tout ça. Clairement, la campagne Trump va poursuivre en justice un certain nombre de ses décisions. Donc, ça peut prendre encore plusieurs semaines avant que ce soit complètement validé. Parce qu'il faut voir que les élections ici sont annoncées, les résultats sont annoncés souvent par certaines publications qui font référence, comme notamment Associated Press, suivies en général des autres, que ce soit les Fox News ou MSNBC, CNN, Washington Post ou Wall Street Journal, mais que les élections ne sont validées que bien plus tard, en fait, de manière officielle. Donc, une fois que tous les recours ont été épuisés, c'est à ce moment-là que effectivement les élections sont, les résultats sont officialisés. Donc, on n'est pas encore, si on est démocrate, on n'est pas encore sorti du bois, comme on dit, en fait. Moi, je suis encore très dubitative, même si aujourd'hui on annonce que Biden a le nombre de
De
college
grands
electoral
électeurs.
vote à de grands électeurs, je ne suis pas encore complètement sûre que ce sera complètement validé. Et pour une raison simple, c'est que si ça remonte à la Cour suprême, c'est une des grandes victoires de Trump durant ces 4 années, c'est qu'il a pu nommer 3 juges à la Cour suprême qui sont extrêmement conservateurs, et que du coup l'équilibre de la Cour suprême n'existe plus, puisqu'il y a 6 juges sur 9 aujourd'hui qui sont très conservateurs. Donc on se souvient, on tremble encore de cette décision il y a 20 ans maintenant de Al Gore versus Bush. Où ça s'était mal passé pour Al Gore, hein, comme on le sait, bien qu'il ait eu le vote populaire. Donc on ne sait jamais. Voilà, tout
Oui,
ça
parce
pour dire.
on va rappeler aux gens, le vote populaire, c'est les gens, mais tous les gens qui votent, mais voilà, après, c'est pas eux qui sont plus représentés, mais c'est les grands électeurs au final.
Exactement. En fait, on a l'impression, vu de l'extérieur, que cette course à la Maison-Blanche aujourd'hui est très serrée en termes de pourcentage, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est 50-50 parce qu'on a Biden qui est au coude à coude sur certains États avec Trump et que du coup, il pourrait juste passer la barre des 270 électeurs et que du coup, ça lui ferait une très courte majorité. Mais il ne faut pas oublier qu'en termes de vote populaire, aujourd'hui, je le disais ce matin, Biden a surpassé le nombre de votes jamais eu par un candidat à la Maison-Blanche. Je crois que c'est au-delà de 70 millions de personnes sur 160 millions d'électeurs enregistrés aujourd'hui. Et que Trump, bon, et malgré tout, a quand même une certaine, clairement un certain nombre d'électeurs qui votent pour lui, mais il est bien en dessous de ça. Donc, si on en était à un vote classique qu'on connaît chez nous, de vote direct à la majorité absolue, Biden serait déjà largement vainqueur depuis longtemps, en fait.
Et en tant que Français, donc toi et toutes tes connaissances, etc., vous trouvez ça comment? Parce que de se dire, de vivre dans une tension pareille, c'est bon, c'est leur culture, enfin c'est leur culture, c'est leur façon de faire, hein, mais
Ah, je ne sais
ça
pas
sent.
si c'est dans leur culture, hein. Clairement, ça ne se passait pas comme ça avant, pour plusieurs raisons. D'abord, Trump est quand même a été un candidat en 2015-2016 et puis un président qui est complètement hors norme. Je pense que c'est comme on dit en anglais, un understatement de dire ça. Je pense que personne ici, qu'on soit pour ou contre lui d'ailleurs, hein, ce n'est pas tellement le sujet, c'est que tout le monde le trouve complètement en dehors de la norme. Donc du coup, ces élections sont effectivement hors norme. Ça, c'est clair. Ce qui fait trembler évidemment, c'est le fait qu'il annonce au pupitre de la salle de presse de la Maison-Blanche que ces élections sont frauduleuses, qu'elles ont été volées, etc. On voit bien que la presse d'ailleurs, y compris des presses très conservatrices, notamment le New York Post, a commencé à ruer dans les brancards en disant que c'était pas voilà que en gros il avait l'attitude de quelqu'un d'un mauvais perdant et que donc on sent que c'est en train de changer un petit peu mais malgré tout il a vraiment alors oui il a mis à mal les institutions et la culture américaine qui semblait être extrêmement policée extrêmement toujours en recherche du compromis, malgré tout, de la discussion, en tout cas du respect de l'opinion de l'autre. Ça, c'était dans la culture américaine, dans la manière de procéder ou d'interagir avec son voisin, son collègue de bureau ou n'importe qui. Le conflit est rarement là. Bon, New York étant un peu particulier, c'est vrai, parce qu'ils sont peut-être un petit peu plus rough à certains moments, mais globalement, les Américains sont quand même toujours à essayer d'être dans le compromis et essayer de comprendre l'autre. On voit bien aujourd'hui et depuis quelques années, depuis que Trump est là, qu'au niveau politique, ce qu'ils appellent tout ce qui est décision et essayer de trouver des compromis bipartisans sur certaines questions et a volé en éclats complètement. Le Sénat et la Chambre aujourd'hui ne vote que ce qu'ils appellent en party line, donc c'est-à-dire que c'est tous les républicains d'un côté et tous les démocrates de l'autre, et il n'y a quasiment jamais eu un camp, un représentant d'un côté ou de l'autre qui s'est rangé contre son camp, à part une fois, et ça a fait la une des journaux pendant des jours quand Mitt Romney avait effectivement fait sécession d'une certaine manière au Sénat. Maintenant, je pense que malgré tout, alors personnellement, je vais pas m'en cacher, moi je suis pas du tout à l'aise depuis 4 ans avec Trump à la Maison-Blanche, ça c'est clair et net. En revanche, je pense que c'est quand tu parlais de la tension, etc. Je pense que cette tension, malgré tout, elle était sous-jacente depuis de nombreuses années. Et que c'est aussi la responsabilité des démocrates et des libéraux qui sont un peu voilés la face ou qui n'ont absolument pas vu
La tension qui monte.
la tension qui montait du côté de personnes qui n'étaient pas du tout alignées avec leur manière de penser, avec leur manière de vivre ou de considérer ou de voir le monde. Et je pense qu'il n'y a pas eu d'effort qui a été fait pour essayer de comprendre et d'intégrer ces personnes-là à la discussion, en fait. Et je crois que c'est la grande responsabilité aujourd'hui des démocrates, surtout s'ils prennent le pouvoir, c'est de clairement se poser les bonnes questions, par rapport à leur vision des choses et leur manière d'amener justement leurs idées, qui sont au final, pour certains, tout aussi extrémistes que les positions d'un parti comme celui de Trump. Et je pense qu'on n'est pas plus à l'aise quand on est un peu modéré comme moi et la plupart des Français, je pense d'ailleurs. Je pense qu'on n'est pas plus à l'aise avec la manière dont certains libéraux se positionnent qu'avec la manière dont certains extrémistes républicains, conservateurs se positionnent.
Et en un mot, est-ce que tu penses que ces élections, elles vont encore plus diviser le pays? Ou alors Biden, si c'est Biden, encore une fois, il va arriver à ce que les gens se retrouvent, parce que là, c'est vraiment fissuré tout ça.
Je pense que c'est vraiment très très long et c'est pour ça que les prochaines semaines vont être assez déterminantes. Si Biden passe, enfin, pour voir aujourd'hui, alors tu ne le vois pas évidemment, mais à New York, qui est quand même une ville clairement démocrate, l'État de New York est démocrate, mais pas de manière très importante non plus. Il faut voir que quand on sort de New York City, la plupart des régions qu'on dit suburban sont quand même clairement pro-Trump. Donc, il y a quand même déjà un mix proche de chez moi de personnes qui ne sont pas non plus à l'aise avec les démocrates. Mais à New York City, que dans le Soho, Times Square, Fifth Avenue, toutes les vitrines sont barricadées, il y a des flics partout. Il y a eu déjà des incidents, alors assez mineurs, mais quand même, on voit qu'il y a une tension qui gronde. Le jour ou la veille des élections, j'avais lu qu'il y avait des supporters pro-Trump qui commençait à chercher un petit peu la castagne du côté alors côté New Jersey, mais à la limite de New York City, du côté d'un pont qui porte le nom de Cuomo, qui est le père du gouverneur Andrew Cuomo, qui est aujourd'hui en poste. On sent que ça gronde quand même un peu. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure les médias sont responsables. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus, c'est vrai. Je ne sais pas dans quelle mesure ils font aussi enfin, monter cette pression en disant attention, ça va être terrible, la guerre civile. On emploie des mots quand même qui sont très, très forts en permanence. Tout comme quand Trump a été élu, j'ai jamais vu autant le mot nazi, Hitler. Enfin, c'était quand même complètement incroyable, même si je le comprends, mais je pense qu'il y a quand même une surenchère des mots parfois qui n'aident pas nécessairement à l'apaisement. Et pour en revenir à ta question de savoir si Biden et le Parti démocrate va être capable de réunir ces gens, franchement, je n'en sais rien parce que malgré tout, il y a une division de fond, ne serait-ce que sur une question très importante. Qu'est le coronavirus et cette pandémie. On voit bien, je lisais hier notamment par rapport aux électeurs aujourd'hui, les républicains en majorité pensent que Trump a fait un excellent travail par rapport à cette pandémie. Donc, ils ne verront jamais les restrictions potentielles que Biden va vouloir imposer à l'ensemble des États comme étant nécessaires. Et du coup, ça va créer une division. Donc déjà là, ne serait-ce qu'avec un sujet qui nous paraît, nous, essentiel, ben je pense que du coup, ça va créer de toute façon une division. Il y a une division qui s'est installée sur le fait que Trump clame depuis le début de cette pandémie qu'il faut laisser les business ouverts, qu'il faut réouvrir les écoles, etc., etc., sans... Et ça, c'est un point important, sans offrir d'aide ou de plan quelconque pour aider à faire tout ça. Hein. Il le clame, mais cela dit, il n'y a quand même pas grand-chose qui est fait. Mais cela dit, ça résonne énormément aux oreilles de ces personnes qui ne vivent pas à New York City, qui n'ont pas été dans une situation comme nous au mois de mars, avril, mai, où clairement les taux d'infection, la mortalité étaient extrêmement fortes et que du coup, voilà, de facto, les gens se sont rangés aux restrictions qui ont été demandées. Quand on est au fin fond du Kentucky, on ne voit pas forcément l'intérêt de suivre ce genre de mesures, alors qu'ils sont touchés aujourd'hui bien plus que nous, hein.
Oui. Et
Voilà.
je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport au confinement. New York, c'est comme la ville qui dort jamais, hein. Et là, j'imagine que c'était plutôt calme. Donc, entre confinement plus élection super tendue, le moral de l'expat, en tout cas à New Yorker, c'est quoi?
Alors moi, je suis extrêmement impliquée, comme tu le sais, dans la communauté des entrepreneurs français qui sont ici. Alors expatriés ou non d'ailleurs, parce qu'ils sont souvent, il y a un certain moment où on n'est plus expatrié quand ça fait 20 ans qu'on y est.
Ah, on a immigré.
Voilà, donc on est immigré ici sur le sol américain. Clairement, il y a eu une vague très importante de personnes françaises, alors pas que des entrepreneurs, qui ont décidé que c'était le moment de revenir en France. Donc ça, c'est indéniable. Les chiffres sont assez extraordinaires. Et c'est des milliers de Français qui ont décidé de provoquer leur retour, qui était certainement programmé à terme, à moyen ou court terme, mais du coup, ça a été un peu, voilà, on sent que c'est en train de basculer vers quelque chose qui ne leur convenait pas. Ils avaient l'impression qu'il n'y avait aucun leadership au niveau fédéral sur la prise en charge de cette pandémie, que l'économie, bon, on ne savait pas trop où ça allait, et je pense qu'ils se sentaient plus à l'aise de revenir en France, notamment par rapport à la question de la réouverture des écoles. Et ça, c'était un gros souci à New York City.
Ah
Un gros
oui.
souci, puisque les écoles, ça a été un gros sujet ici, où ils ont décidé de ne pas réouvrir. On est ouvert aujourd'hui en partie, mais c'est quand même très, très complexe. Et ça, bon, voilà, c'est quand même très anxiogène, extrêmement porteur de stress. Puis une organisation, quand moi j'ai trois enfants, donc bon, voilà, je passe mon temps à gérer des agendas et essayer de faire en sorte de pouvoir travailler entre les deux quand même. Donc ça, c'est extrêmement anxiogène. Après, quelque chose, on en parlait ce matin avec mon mari, par rapport à la France, cela dit, le gros avantage de la manière dont les choses ont été gérées à New York, et dans l'État de New York en général, et New York City aussi, c'est que oui, cette ville s'est arrêtée de vivre. Ça, clairement, c'est un crève-cœur de voir les rues désertes, les Broadway shows qui sont, voilà, les salles de spectacle qui sont vides, les vitrines qui sont vides et abandonnées. Enfin, c'est quand même pas. C'est vraiment difficile à voir, franchement. Après, la vie continue aussi. Les Américains sont extrêmement résilients. Ils ne se laissent pas abattre, ils continuent parce qu'ils sont dans cette dynamique. Qu'on ne connaît pas forcément en France, où l'État n'est pas là, l'État n'est pas Providence, l'État ne fournit rien. Donc il faut continuer à avancer. Coûte que coûte, il faut trouver un moyen. Donc ils ne se laissent pas abattre, ils continuent, ils vont trouver un moyen. Je connais un jeune pas très loin de chez d'ici, d'origine asiatique. Il a décidé de se mettre à faire du pain. Aujourd'hui, voilà, il fait du pain et il vend son pain. Et ce n'était pas du tout ce qu'il faisait avant. Et ça marche très bien. Mais voilà, comme beaucoup de gens, il s'est mis à faire du pain pendant la pandémie. Il a vu qu'il en faisait du bon. Et ben voilà, il fait du pain aujourd'hui. Il a son site web et il distribue son pain. Et je pense que cette énergie-là est pour le coup très, très américaine. C'est quelque chose de toujours assez positif. Il ne se laisse pas abattre et il continue. Je l'ai vu, moi, plusieurs fois en différentes occasions. Je l'ai vu notamment lors de désastres climatiques, par exemple, les cyclones qui ont pu avoir lieu. Alors, quand j'étais à Washington, D.C., il y en a eu quand même pas mal. À New York aussi, il y en a eu quand même pas mal de dégâts, de morts, etc. Ça a été quand même assez compliqué il y a 8-9 ans de ça. Tout de suite, la solidarité se met en place parce qu'il n'y a personne d'autre qui viendra aider, en fait. Donc, c'est la communauté à un niveau très local se met tout de suite en ordre de marche. Et ça marche très, très bien. Ça marche très bien. Donc, il y a eu ça. Il y a eu 2008 quand la crise des subprimes a frappé notamment New York, où on a vu pour de vrai des immeubles entiers de bureaux Lehman Brothers, mais pas uniquement tout le downtown financial district de Manhattan qui s'est vidé littéralement en 48 heures de tout le monde, de tous ces financiers. Ça a été un énorme coup pour la ville, pour les gens. Mais ils ne s'apitoient pas trop sur leur sort, en fait. On voit que, oui, il y a quand même 30 à 40 % des restos qui vont fermer leurs portes. Hein. Ça, c'est aujourd'hui clairement annoncé. Malgré tout, on était, nous, hier soir, on est allé dîner dans un petit resto du quartier, je vis à Brooklyn. Bon, ben voilà, ils ont installé leur table dehors. Ils ont mis des jours et des jours à installer des espèces de petites maisons en plexiglas au-dessus de leur table qui sont dehors pour pouvoir mettre un petit réchaud, etc. Ils ouvrent à 25 % de capacité à l'intérieur parce qu'ils n'ont pas le droit de faire plus. Ils continuent jusqu'à ce que ce soit vraiment la fin, en fait. Et les gens participent à cette économie-là. Ils sont, voilà, ils n'ont pas envie d'arrêter. Ils continuent à aller dans les
Ouais, ils sont assez
magasins,
solidaires.
dépenser.
Ils sont assez solidaires.
Ouais.
Caroline, toi, tu es indépendante, hein, tu travailles dans les relations publiques. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément en quoi ça consiste?
Alors, je suis effectivement dans les relations publiques, alors au sens assez large du terme. J'ai commencé dans les relations presse en France. J'ai toujours été dans le domaine des technologies et des startups, puisqu'il y a 20 ans de ça exactement, et ça ne me rajeunit pas trop, c'était le début de la bulle Internet qu'on appelait comme ça en France. C'est un secteur qui m'a toujours attirée. Je suis moi-même issue d'un parcours scientifique, donc ça, voilà, ça a été, j'ai eu une appétence pour ce domaine-là qui s'est développé très rapidement. On est parti aux États-Unis en 2004 et j'ai assez vite compris que comment dire, l'un de mes gros avantages, c'est d'être justement biculturel. Aujourd'hui, j'ai le passeport américain, j'ai le passeport français. Ça fait 16 ans que je vis aux États-Unis, 10 ans que je suis, 11 ans que je suis à New York. Je connais la communauté française. Pas uniquement dans la tech d'ailleurs, mais au sens élargi, je la connais très très bien. Je suis vraiment dans tous les domaines, que ce soit culturel ou autre. Je connais énormément de monde, évidemment, dans le reste des États-Unis et même au Canada, par le biais de la French Tech, puisque je suis membre du board de la French Tech à New York City, en charge de leurs events et de la gestion de la communauté. Donc, du coup, je suis en lien avec toutes ces autres communautés French Tech. Et donc, du coup, mon boulot, au travers d'autres contrats que je peux avoir avec d'autres organismes, c'est souvent de faire des connexions ou de mettre en place, alors que ce soit dans le monde d'avant mars 2020, des workshops, des séminaires, des dîners, des events comme des conférences, voilà, ce genre de choses. Aujourd'hui, ben, évidemment, c'est un petit peu plus, voilà, on est plus en Zoom, mais ça fonctionne quand même. Finalement, il y a aussi des avantages, c'est quand même d'une certaine manière moins compliqué à organiser. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui avec toujours une carte très, enfin, un lien très important avec ces entrepreneurs français, qu'ils soient ici ou en France, et essayer de, alors on le dit en anglais, je suis désolée, bridge the gap, mais en gros, essayer de créer de continuer à avoir ce lien. Qui est vraiment indéfectible finalement, quoi qu'on en dise, entre les États-Unis, l'Amérique du Nord et la France. C'est un lien qui existe depuis très très longtemps. Ce n'est pas un Trump qui va le faire vaciller. Les entrepreneurs français veulent toujours venir aux États-Unis parce que c'est l'un des plus gros marchés mondiaux aujourd'hui. Culturellement, on se sent assez proche des États-Unis. Et les États-Unis, malgré tout, nous regardent comme étant une nation, voilà, ils aiment beaucoup les Français en réalité. Hein. Ils nous aiment beaucoup. Il y a quelques épisodes un peu particuliers, mais globalement, on est toujours les bienvenus ici.
Voilà, on a la French Touch.
Voilà.
Dis-moi, enfin, je suppose que élection plus confinement, tout ça combiné, ça a eu un impact sur ton activité et puis sur vos vies de famille?
Ah, ben, concrètement, oui. Concrètement, moi, j'ai eu plus de la moitié de mes contrats qui sont tombés à l'eau. En mars, parce que ben, voilà, tout d'un coup, j'avais un certain nombre d'événements à organiser, des voyages de presse vers la France, des dîners, des conférences, etc. Tout ça est tombé à l'eau, ben, tout d'un coup. Donc, ben, si on ne peut pas organiser Il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, en plus de ça, l'organisation même d'un Zoom, même avec plusieurs personnes, on ne peut pas le facturer de la même manière que si c'est un voyage de presse avec 10 personnes et que ça me demande 4 jours de présence en France avec ces mêmes journalistes. Je ne peux pas facturer mon temps de la même manière. Les budgets, évidemment, comme sont les premiers à être tombés. Marketing com, c'est de toute façon c'est toujours la même histoire. En général, ce sont les premiers à être réduits voire annulés. Donc ça, clairement, il y a eu un impact sur mon business. Après, voilà, moi je suis aussi un peu comme les Américains. Je continue notamment avec la French Tech en pro bono, certes. Donc je facture pas, mais en l'occurrence, je me dis que c'est de toute façon mieux de continuer à nager que de s'arrêter. Donc je suis ravie de pouvoir le faire. Sur la vie de famille, alors là, je pourrais en écrire. Il en faudrait 10 autres, des podcasts comme ça. On se s'est retrouvés à 5 tout d'un coup, entre mon grand qui a 18 ans, ma moyenne qui en a 13 et ma petite qui a 6, à devoir gérer l'école des uns et des autres. Bon, ça n'a pas été simple sur le moral de tout le monde. Mon mari lui-même est entrepreneur et il a démarré sa troisième start-up en fin d'année dernière. Donc, c'est quand même relativement stressant comme climat aussi par rapport à l'investissement, par rapport à, voilà, à son business plan, ses clients potentiels, etc. Donc, oui, il a fallu s'organiser. Maintenant, il y a eu aussi des choses assez positives finalement. On s'est rendu compte que non, on ne se tapait pas tous sur la figure au bout de 2 semaines, que finalement, le côté positif aussi, c'est que cette pandémie a eu le bon goût de commencer en mars. Donc, du coup, mine de rien, on était, contrairement à la France, il faut quand même avoir ça en tête aussi, c'est qu'à New York, confinement, on appelait ça le lockdown, mais ce lockdown n'était pas contraint comme chez vous, avec des autorisations de sortie, avec on avait le droit de sortir qu'une heure par jour, etc. C'était pas du tout ça. De facto, parce que New York City a fermé ses portes, en fait, ses activités, tout ça. Finalement, il n'y avait plus rien à faire. Donc, tout le monde est resté chez soi. Les magasins étaient fermés, tout était fermé. Donc, finalement, on était chez nous et on se baladait. Mais voilà, les gens étaient extrêmement respectueux du port du masque. De nous, on l'a toujours porté. Il a toujours été obligatoire, pas obligatoire, de la même manière. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais vu quelqu'un avoir un PV parce qu'il ne portait pas son masque. Mais à 80, plus de 80%, les New-Yorkais déclaraient déjà depuis avril qu'ils portaient le masque. Et ça ne s'est jamais arrêté. Il n'y a pas eu de relâche au mois de juillet-août pendant les
Appuyez après.
vacances, ou que ce soit. On se désinfecte les mains avant de rentrer dans un magasin. Il y a un nombre de personnes limitées pour rentrer dans les magasins. Ça a toujours existé depuis le mois de mars. Donc finalement, ça a été un peu contraignant. Plus, j'avoue que je regardais avec beaucoup d'envie les Instagrams de mes amis et de ma famille cet été en vacances à Arcachon ou ailleurs, vivre un peu cette vie un peu normale d'avant. Mais au final, ça a eu le bénéfice de ne pas avoir de. On a eu cette vie qui est relativement stable finalement. Dans cette anormalité, c'était relativement stable. Les règles étaient là, on les respecte, on vit avec ça, on a notre masque, on l'oublie pas, on fait, voilà, on fait avec, par respect pour l'autre, qu'on y croit ou pas, les gens sont assez respectueux de ce que les autres pensent et font. Et je trouve que ça, c'est plutôt bien. Donc mes enfants portent les masques, mais ils vont à l'école quelques jours par semaine. Ils sont obligés de le porter depuis la rentrée à l'école. C'est pas nouveau, voilà. Donc ils sont pas surpris et ça se
Donc,
passe
ouais,
pas très mal.
vous avez réussi à vous adapter à tout ça. Et alors, pour terminer très rapidement, est-ce que tu aurais trois choses que tu aimes à New York à nous dire?
Trois choses que j'aime à New York. Trois choses que j'aime et que j'aimerais voir revenir, surtout, c'est parce que c'est vrai, hein. La scène musicale. J'ai énormément d'amis qui sont musiciens et qui souffrent vraiment de plein fouet de tout ce qui se passe et vraiment ça me fait mal au cœur. Donc je veux revoir ces concerts, je veux revoir cette animation dans les rues, je veux revoir ça. Ça, c'est ce qui fait la force de New York. Il y a de tout, partout. C'est un festival pour les yeux, les oreilles, en permanence. Donc, voilà, j'aspire à ça, j'espère le plus tôt possible. Ce que j'aime beaucoup à New York, comme ce que je te disais, c'est la résilience des New-Yorkais. Ils ne sont pas toujours faciles d'accès, contrairement à ce qu'on pense. Ils sont toujours très gentils, ils aident, mais ce sont des gens qui sont relativement pudiques. Et malgré tout, ils ont cette force de caractère de toujours avancer. Et ça, c'est une grande leçon. Pour nous, je pense qu'il faut regarder. Et puis quoi d'autre? Ben, ce que j'aime le plus à New York, c'est l'automne en fait. Et tu vois, aujourd'hui, on est le 6 novembre et il fait 20 degrés. On a l'été indien et c'est formidable. Il fait un ciel bleu magnifique et on va aller à la plage samedi. Donc, franchement,
Ah bah super.
voilà.
Bah écoute, merci, merci beaucoup Caroline de nous avoir partagé
Ben,
voilà ta
merci
vie
à toi.
à New York, de nous avoir mis au cœur des élections et de comment ça se passait, de nous avoir tout bien expliqué. Et puis bah on vous souhaite bonne chance pour tout ça et en espérant que le confinement se finisse très vite aussi.
Oui, j'espère aussi. Merci et bon courage
Merci.
à vous tous.